Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la place des Français musulmans en France. À l'ordre du jour ce soir, Français musulmans, y a-t-il un exode silencieux? On ne sait pas très bien comment les nommer. Sont-ils des exilés? Sont-ils des émigrés? Ou simplement des Français de l'étranger? On ne sait pas d'ailleurs très bien combien ils et elles sont, mais le livre qui leur est consacré et qui sort demain, La France, tu l'aimes, mais tu la quittes, en a interrogé plus de 1000 par questionnaire et 139 par entretien approfondi. Ce sont des Français, des Françaises musulmans et musulmanes, convertis ou non, qui ont eu à un moment de leur parcours professionnel, je cite, le sentiment que leur appartenance symbolique à la nation française leur était niée et qui sont donc partis. Partis pour le Canada, partis pour la Grande-Bretagne, partis pour la Belgique ou Dubaï, pour les États-Unis ou Singapour. La plupart d'entre eux sont des diplômés et sont partis après les attentats de 2015 et encore plus ces deux dernières années. Quelles en sont les raisons? Nous allons en discuter avec un des auteurs de ce livre, Julien Talpin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, chargé de recherche en sciences politiques au CNRS, spécialiste des questions de discrimination et co-auteur, donc avec Alice Picard et Olivier Estève, de l'ouvrage « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes », enquête sur la diaspora française musulmane. Avec nous également Kaoutar Archi. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivaine et sociologue. Vous avez fait paraître notamment « Comme nous existons » chez Actes Sud, c'était en 2021, et vous êtes chercheuse à la Haute École de Travail Social de Genève. Enfin, troisième invité, Hakim El-Karoui. Bonsoir. Vous êtes essayiste, consultant, président du club du 21e siècle et conseiller au think tank donc Terra Nova. Et vous avez écrit également pour un autre think tank, l'Institut Montaigne, Islam, une religion française, paru chez Gallimard. C'était en 2019.
Moi, je suis français. Quand on me demande t'es d'où, je leur dis je suis français. Et tout de suite, on parle de Paris, c'est beau. Ah, t'es de Paris, ah, c'est magnifique. Ouais, bah oui, voilà. Là-bas, ils nous voient tous avec le béret, la baguette, le vin. Je leur dis non, moi je bois pas de vin, je suis musulman. Ça leur dit ah ouais, pour un Français, tu bois pas de vin. Ça les tue. Et moi, ça me fait rire. Je dis toujours chez nous. En France, on nous dit soyez intégrés, soyez français. Mais c'est ce que je fais, c'est ce que je vous dis. Je le suis. On me dit non, tu l'es pas. Pourquoi? Parce que je suis musulman, parce que je m'appelle Amar. Ça veut rien dire. Moi, il y a qu'en France que je subis ça. J'ai travaillé en Colombie. J'ai travaillé au Cap-Vert, j'ai travaillé au Sénégal, j'ai voyagé au Sri Lanka, tous les pays arabes, du Qatar, n'importe où, en Italie, j'ai bossé, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique. Il n'y a qu'en France qu'on me dit « t'es de quelle origine ? T'es d'où ?» Je comprends pas. Je sais pas, je suis quoi ? Tu veux que je sois quoi ? J'habite là, je suis d'où ? Ben, je suis là, je suis de Meudon. Au bout de combien il faut qu'on nous dise plus d'où ? 40 générations, 50 ? Alors, il y a quelques années, Sarkozy avait dit « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ?» Eh ben, moi, je l'ai quittée.
Vous venez d'entendre Amar, consultant à Leicester, qui a quitté la France et qui témoignait pour l'émission « Les pieds sur terre » sur France Culture au micro de Clément Baudet. Vous citez d'ailleurs dans votre livre avec Olivier Estève et Alice Picard, Julien Talpin, cette émission des « Pieds sur terre » dans votre livre « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes », enquête sur la diaspora française musulmane. Est-ce que c'est typique, pourrait-on dire, des entretiens que vous avez pu avoir avec ces Françaises et Français musulmans et musulmanes que vous avez interrogés un peu partout dans le monde ?
Alors c'est tout à fait typique des témoignages qu'on a recueillis. L'idée que on ne s'est jamais senti autant français que depuis qu'on est à l'étranger, parce qu'on est enfin perçu et traité comme tel. Le sentiment bien souvent que quand on était en France, les discriminations ou tout un ensemble d'assignations, de vexations, de micro-agressions repoussent hors de la communauté des citoyens, vous font paraître un peu moins français que les autres, et par accumulation, effectivement, et de part aussi les effets très directs que ça a sur la carrière professionnelle des individus. Beaucoup des gens qu'on a rencontrés pour obtenir des postes à la hauteur de leur diplôme ont dû partir. Mais cette dimension symbolique, au fond, de ne pas être perçu comme appartenant pleinement à la communauté nationale est un élément tout à fait central de la violence symbolique, au fond, qu'ont vécu les personnes que nous avons rencontrées.
Et pourtant, Hakim El-Karoui, vous avez fondé il y a plus de 20 ans maintenant un club dont vous êtes le président. vous avez fondé le club du 21e siècle, qui avait justement pour objet, pour volonté d'intégrer, de mieux intégrer dans la société française, de faire monter des élites qui viendraient justement de la diversité française jusqu'au plus haut poste dans les entreprises, puisque c'est un club qui aussi propose des stages, des possibilités de faire des stages dans les grandes entreprises françaises. Qu'est-ce qui s'est passé pour que malgré ce long parcours du club 21e siècle, on puisse avoir un livre comme celui de Julien Talpin, Olivier Estève et Alice Picard?
Alors juste pour préciser, l'objet du club, c'était pas de réunir les Français de confession musulmane.
Bien sûr,
c'était vraiment des gens devenus du monde entier.
Toute la diversité.
Voilà, pour montrer à deux publics que c'est possible, c'était possible et c'est toujours possible, le public des familles immigrées et puis le grand public. Il n'y a pas d'assignation, il n'y a pas de... éviter le défaitisme, etc. Bon, après, à l'évidence, on n'a pas exactement réussi. Ça, on est tous d'accord là-dessus. On a créé un petit phénomène, c'est les alcooliques anonymes. Tout seuls, ils ne parlent pas de leurs problèmes, mais ensemble, ils en parlent. Donc ça, c'était très intéressant d'entendre des gens qui ne pouvaient pas parler de leur histoire, avoir la capacité de juste raconter leur parcours de vie compliqué, etc. C'est vrai que ce phénomène... Alors, le phénomène du départ, on l'entend depuis longtemps. D'abord, c'était Londres. Ensuite, ça a été Dubaï. Et je crois que là, moi, ça m'intéresse beaucoup d'entendre les auteurs sur la méthodologie. Parce que comment on fait pour compter? Parce que des cas individuels, c'est sûr qu'il y en a plein. Et il y a plein de raisons de partir, en fait. Parce que des expatriés français diplômés, il y en a beaucoup. Après, il est évident que l'ambiance a changé. Notamment après les attentats, avec un effet paradoxal, c'est que l'ambiance a changé, mais il n'y a pas eu de il y a eu de la violence symbolique, il n'y a pas eu de violence physique. Et donc il y a à la fois une résilience de la société, vu l'ampleur des chocs, hein. Après, moi je pense qu'il y a eu des erreurs, des musulmans qui n'existent pas, parce qu'ils ne sont pas structurés en communauté, et ils n'ont pas une identité qui fait qu'ils se voient d'abord comme musulmans.
Mais justement sur cette question de la méthodologie, pourrait-on dire, Olivier Estève, Alice Picard et vous, donc Julien Talpin, vous avez donc mené cette enquête au long cours auprès de, je l'ai dit, plus de 1000 questionnaires et environ 180 ou quelque chose comme ça, 180 entretiens, 139 entretiens. Est-ce que justement cette méthodologie permet justement de fonder l'édifice savant suffisamment pour qu'on puisse avoir là une vision roborative de cette question du rapport des musulmans et musulmanes français au pays et de leur départ?
Bon, je crois qu'on a essayé d'avoir la méthodologie la plus robuste et rigoureuse possible à partir des outils de sciences sociales. Alors, on le dit dans le livre, hein, c'est un phénomène qui est difficile à quantifier, à compter. Hein. Le ministère des Affaires étrangères lui-même a une comptabilité en fait assez imprécise des Français expatriés, quelle que soit leur confession, et n'a pas de statistiques sur la confession des expatriés. Nous, on a quand même été surpris en fait quand on a lancé notre appel à témoignages pour le questionnaire de l'ampleur des réponses. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on commence à parler, et ça commence tout juste, hein, de notre ouvrage et de cette enquête, des gens nous contactent, nous envoient des messages, des mails, sur les réseaux sociaux pour nous dire « Moi aussi, je suis concerné. Est-ce que vous voudriez m'interviewer d'une certaine façon ?» Et donc, il ne fait aucun doute que au-delà des 1000 personnes qui ont répondu à notre questionnaire, le phénomène concerne des milliers de personnes et peut-être des dizaines de milliers de personnes, même si c'est difficile d'avoir des chiffres précis. Et peut-être un dernier mot par rapport à ce qui était dit précédemment. Il y a effectivement, plein de raisons de partir qu'on a essayé d'objectiver dans notre enquête, hein, dans notre questionnaire. On listait tout un ensemble de raisons au départ. Et d'ailleurs, la question de mettre à distance le racisme et les discriminations, on l'avait mis en bas en fait des options possibles pour éviter de mettre dans la bouche de nos enquêtés cette raison-là. Et pourtant, c'est celle qui revient très majoritairement comme la première raison du départ pour plus de 71% des gens qui ont répondu à notre questionnaire.
Kaoutar Archi, est-ce que vous avez justement une petite idée de ce, non seulement de ce qu'il y a dans ce livre, bien évidemment, mais de ce qu'est ce phénomène d'une certaine manière, resté un peu sous le boisseau, pas tellement discuté ou débattu, même si Hakim El Karoui nous disait tout à l'heure que ça fait longtemps que ça a commencé, en tout cas, cet exil ou cet exode?
Oui, tout d'abord, peut-être un premier élément. Il me semble important de rappeler en fait que en France, le fait d'être musulman n'a rien à voir avec le fait de l'être religieusement, mais a tout à voir avec le fait d'être perçu ainsi d'un point de vue racial. Donc, pour ma part, je ne parle pas de musulmans qui partent ou qui restent, mais plutôt de minorités raciales, racialisées, qui se structurent et qui essaient de mettre en place des formes de stratégies de survie au fur et à mesure des discriminations qu'elles subissent. Si évidemment il est ici question de la question raciale, il est aussi question, à mon sens, de la question de classe, puisque ce n'est pas n'importe qui a la possibilité de partir. On est bien, comme le dit Julien et comme le disent ses co-auteurs, face à une forme de population qui occupe des positions plutôt supérieures, avec des ressources, avec potentiellement aussi des réseaux relationnels. Donc pour moi, la question n'est pas tant est-ce que le phénomène est massif ou est-ce qu'il est d'une certaine forme de faiblesse quantitative. Le phénomène est le phénomène des discriminations raciales qui sévissent en France contre une partie de sa population. Et les personnes, les individus, les groupes qui en ont la possibilité cherchent à se resubjectiver dans des contextes où ils ne seront pas perçus de manière négative et réductrice.
Hakim El-Khaoui, justement, c'est intéressant en tant que président de ce club 21e siècle, parce que justement, ce ne sont pas n'importe quelle des populations qui quittent la France, comme le dit Kaoutar Archi. Ce sont généralement des gens qui sont diplômés, peut-être parfois les premiers diplômés de leur famille, mais diplômés à un certain niveau. Et beaucoup de ceux qui sont dans ce livre sont des gens qui ont un bac plus 5 au minimum, par exemple. Et donc, ce sont ceux que vise justement la politique que vous vouliez mener avec les fondateurs et fondatrices de votre club 21e siècle.
Oui, à l'évidence, c'est une élite. Alors, ce qui est très frappant, c'est que, mais au-delà de l'élite, hein, je pensais à une enquête, il y a eu une enquête de la Fondapol il y a quelques années sur la xénophobie. Il y avait des résultats qui étaient très frappants sur l'antisémitisme, avec 25% des personnes de confession juive qui considéraient qu'ils avaient été victimes de propos, de comportements. Mais dans la même enquête, parce qu'elle portait sur un ensemble général de Français, il y avait des questions aussi sur les musulmans et sur les Roms. Et les musulmans, c'était pas 25%, c'était 40%. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, personne ne l'a relevé. Comme si c'était normal. Et comme si, d'une certaine manière, ils étaient responsables de ce qui leur arrivait, pour les musulmans d'ailleurs, comme pour les Roms. Oui, il y a des problèmes avec eux. Et en fait, ce scandale pour l'esprit qu'il y ait des gens qui puissent être considérés comme étant une cause de problème structurel dans la société, au moment où on se réécrit sur la République, et de pas voir ce qui était écrit noir sur blanc dans une enquête, de pas le relever, en fait, ça dit beaucoup. Et puis il y a eu, ça c'est conjoncturel, mais très frappant, après Gaza, après le 7 octobre, un phénomène, je crois, très puissant chez ces Français-là, le sentiment d'être coupable jusqu'à preuve du contraire, et de ne pas avoir de place dans le débat public, d'être complètement marginalisé, d'être mis à l'écart. Et je crois que ça a été un choc très violent.
Oui, alors votre enquête s'arrête avant, justement, Julien Talpin, avant le 7 octobre, néanmoins prend en compte d'autres événements qui ont marqué à la fois la communauté nationale, on l'a dit, les attentats, mais même elle remonte parfois pour des gens qui ont quitté la France après les tours jumelles en 2001 ou à d'autres moments après le référendum de 2005. Enfin, voilà, donc elle prend en compte une longue durée, pourrait-on dire. Est-ce qu'il y a, selon vous, une accélération de ce mouvement sans qu'on puisse le mesurer, puisque vous l'avez dit vous-même, on n'a pas de chiffres?
Alors, effectivement, c'est un phénomène qui est ancien et qui est très sensible à l'actualité politique et aux périodes de cristallisation et de surfocalisation sur l'islam et les musulmans. 2001, 2004 avec la loi sur les signes ostensibles à l'école. Et 2015 quand même, nous on a beaucoup de gens qui ont répondu, qui sont partis après les attentats de 2015 et le sentiment que l'assignation aux terroristes était particulièrement violente. Et puis la structuration du débat public autour de ces enjeux-là. Et donc, il est assez probable quand même que le phénomène s'accélère. Juste un mot peut-être par rapport au 7 octobre. Effectivement, notre enquête ne le couvre pas, mais parmi les messages qu'on reçoit depuis, en fait, des gens nous font part effectivement de ce contexte-là. Car au-delà des discriminations directes que subissent les gens, ce qui revient beaucoup également dans notre enquête, c'est l'ambiance, en fait. C'est l'atmosphère qui est oppressante dans le débat public, les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu, et les discours aussi des responsables politiques qui crée voilà cette oppression et qui fait qu'une fois qu'on part à l'étranger, les gens nous disent souvent enfin je respire.
Oui, alors vous vous amusez, je pense, parce que effectivement, avec vos co-auteurs et co-autrices, vous parlez d'islamophobie d'atmosphère en reprenant un terme effectivement qui est utilisé dans un autre sens, en particulier par Gilles Kepel. Mais en le renversant, est-ce que ce terme d'islamophobie est bien justifié dans votre enquête, dans le sens que, effectivement, d'abord, c'est un débat, c'est un terme qui est discuté dans le débat public, mais surtout qu'il est difficile de savoir s'il y a, et vous essayez de le montrer en tous les cas, qu'il est difficile de savoir si c'est du racisme anti-arabe, par exemple, ou si c'est du racisme ou de l'islamophobie contre l'islam et ceux qui pratiquent cette religion.
Alors effectivement, les choses sont bien souvent imbriquées. Dans notre enquête, on demandait aux gens, à vos yeux, si vous avez subi des discriminations, est-ce lié à votre religion, à vos origines, Souvent, les gens répondaient un peu les deux. Sur le terme d'islamophobie, alors c'est un terme qui est à la fois très massivement utilisé par les gens qu'on a rencontrés et qui est par ailleurs tout à fait reconnu à l'échelle internationale, aussi bien parmi les chercheurs que parmi les organisations internationales, par exemple. Après, bon. Nous, on l'utilise dans le livre, mais on n'a pas de fétichisme à l'égard de ce terme-là. Il nous semble qu'à bien des égards, dans le contexte français, on a peut-être eu un peu trop tendance à se focaliser sur le terme plutôt que sur les conséquences concrètes de ces phénomènes sur la vie des musulmans et des musulmanes. Et donc, islamophobie, racisme anti-musulman, peu importe d'une certaine façon. Ce qui compte, et c'est ce qu'on a voulu faire dans ce livre, c'est documenter les formes de discrimination et la violence ordinaire que rencontrent les musulmans et qui peuvent les conduire à partir.
Kaoutan Arachi.
Oui, je pense qu'en effet, la chose la plus importante n'est pas le mot, la notion, le concept qu'on décide de convoquer, mais bien le phénomène social en question. Et comme le disait Julien, scientifiquement parlant, en soi, il n'y a plus de débat. Le débat a déjà eu lieu et les éléments ont déjà été posés sur la table pour qui s'y intéresse. Non, moi, je pense que la question aussi fondamentale, c'est la question du rôle de l'État, en fait, parce que ces débats qui se posent, cette atmosphère dont parle Julien et dont parlent en particulier les personnes qui ont été enquêtées. Tout ça ne vient pas de nulle part. Tout ça part bien de décisions politiques. Tout ça part bien d'une histoire française aussi qui est très fortement marquée par le colonialisme et par la guerre d'Algérie qui, d'une certaine manière, ne cesse de se poursuivre métaphoriquement d'une certaine manière. Et dire aussi qu'il y a des morts dans cette histoire. Les jeunes issus des quartiers populaires, lorsqu'ils décèdent suite à des contrôles policiers. Donc tout ça n'est pas que symbolique, en fait. Tout ça n'est pas qu'une perception subjective. Tout ça est bien matérialisé par des expériences, par des trajectoires brisées, par des opportunités empêchées. Donc on est face à des existences, en fait, qui sont en jeu.
Hakim El Karoui, l'État, dit Kaoutan Arachi, vous avez vous-même servi l'État puisque vous étiez au cabinet de Jean-Pierre Raffarin à une époque, en tant que Premier ministre. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette approche justement?
Je serais un peu plus nuancé parce qu'encore une fois, moi ce qui m'a frappé après les attentats, c'était vraiment la résistance de la société et le fait qu'il n'y a eu aucun acte violent contre les musulmans. Alors on peut se dire, c'est normal. Moi, j'imaginais le même type d'attentat dans un pays musulman commis par une autre minorité. Très sincèrement, je ne pense pas que ça se serait passé comme ça.
Mais est-ce que ça peut vraiment être un indicateur?
Moi, j'essaie d'être optimiste un petit peu et de me dire, on peut faire des choses. Oui, pour moi, c'est un indicateur. C'est-à-dire qu'il y a une limite qui n'a pas été franchie. Donc il y a la violence symbolique.
C'est une limite qui est très très lointaine. C'est une limite très...
Très lointaine, on aurait pu imaginer, malheureusement, qu'il y ait des groupes d'ultra-droite qui aillent se venger. C'est vraiment devenu tout à fait possible, ça n'a pas eu lieu. Deuxième chose que je veux dire, qui est compliquée, c'est que je pense que dans une situation comme ça, la solution, c'est pas de partir. La solution, c'est d'affirmer ce qu'on est dans le cadre politique qui est le nôtre, qui est le cadre républicain. Et de ce point de vue-là, il y a mille choses à faire. Et je pense que les musulmans ont raté beaucoup de choses après les attentats et continuent aujourd'hui de le rater par défaut d'organisation et aussi par défaut de lutte contre ceux qui, à l'évidence, par exemple les terroristes, sont la cause de cette mauvaise représentation générale.
Julien Talpin.
Non, bah, peut-être sur cette question, les musulmans ont raté beaucoup de choses. Moi, je travaille beaucoup en fait sur les formes d'organisation collective des minorités en France et notamment des musulmans. Et je crois, et pour rebondir sur ce que disait Kaoutar Archi tout à l'heure, que là, il faut aussi prendre en compte le rôle des institutions et de l'État de ce point de vue-là, qui n'accueille pas à bras ouverts les formes d'organisation collective des musulmans en France. Faut-il évoquer la dissolution de certaines associations de défense des droits des musulmans ces dernières années, y compris moi qui travaille de façon plus micro-sociologique dans les quartiers populaires. C'est extrêmement difficile aujourd'hui de s'organiser collectivement pour les musulmans et les musulmanes. Et donc, je crois que c'est une des facettes de la question et du phénomène dont on parle ce soir. Nous, les gens qu'on a rencontrés sont à bien des égards résignés quant à la capacité de la société française à se réformer et à leur offrir une place aussi, parce que les voies plus collectives d'organisation ont été aussi bouchées par des décisions politiques.
Les voies VOIE, mais les voies VOIX également, puisque le grand avantage de votre livre, c'est le grand espace que vous laissez aux témoignages. Un extrait de l'enquête « La France, tu m'aimes, mais tu la quittes » aux éditions du Seuil. On va écouter le témoignage de Yasmina.
C'est que je suis partie à la poste envoyer un colis à un ami qui vivait au Canada avec plein de goodies dedans, plein de nourriture française parce que je savais que ça allait lui manquer. Et le colis, je l'avais acheté au préalable dans une autre poste. Et je suis allée juste déposer le colis dans la poste du quartier dans lequel je travaillais. Et quand j'ai déposé, quand je suis arrivée, il y avait une personne avant moi. Il y avait moi et une autre personne. Là, j'ai fait face à une agente de la poste qui s'est comportée comme si je n'existais pas. Elle fait passer les personnes avant moi. À un moment donné, je lui dis « Je suis désolée, je suis sur ma pause déjeuner. Je veux juste déposer ce colis. » Et là, devant tout le monde, elle m'a fait passer pour une voleuse. Et ça, ça a été le top, quoi. Et je ne pouvais pas répondre, puisque j'étais sur le quartier de mon travail. Ce serait mal vu de voir l'assistante sociale du secteur dire quoi que ce soit. J'ai un peu pris sur moi, j'ai failli repayer le colis juste pour prouver que non, je ne suis pas une voleuse, que ce colis a bien été acheté au préalable. Et un autre de ses collègues, à ce moment-là, est venu en disant « Ça va pas, juste prends le colis, elle l'a payé avant, il n'y a pas de raison de faire tout ça. » Même si ça peut ne pas être vécu comme étant super marquant parce que ce n'est qu'une petite anecdote, au final, qui a fait que je me suis dit « J'y vais ». Et je suis partie au Canada.
Yasmina est maintenant installée à Toronto. Elle travaille dans le social. C'est Stéphanie Villeneuve de l'équipe du Temps du Débat qui vient de lire ce témoignage. Qu'est-ce que vous en pensez, Kaoutar Archi? C'est parce que, en fait, on se dit, ça tient à une tête d'épingle. Alors, j'imagine que cette tête d'épingle a été précédée par beaucoup d'autres humiliations ou beaucoup d'autres moments où on ne s'est pas senti très bien dans la société française. Mais
oui, c'est inscrit effectivement dans une longue histoire. D'ailleurs, une histoire qui peut être une histoire à soi, mais qui peut être aussi une histoire à d'autres et s'identifier à cette histoire-là et avoir le sentiment qu'elle vous parle. Ça dit bien aussi à quel point les individus, face à des rapports de pouvoir qui souvent les dépassent et face auxquels ils sont bien obligés de composer, essayent de mettre en place ce qu'on appelle parfois des formes d'agentivité, c'est-à-dire qu'ils essayent malgré tout
de reprise en main de leur propre destin,
de reprendre en main quelque chose, de reconstruire une certaine forme de survie. Encore une fois, moi je pense vraiment que l'expression de survie est extrêmement importante parce que ce sont des personnes qui ont le sentiment que la vie en France est à leurs yeux impossible.
Un autre exemple très bref qui est cité dans ce livre, Hakim El Karoui, c'est cette femme qui, à un moment, Nouria, elle est installée à Sydney maintenant, en Australie, en a marre, elle veut partir, et avec son compagnon, ils regardent un atlas, et puis ils disent, on s'est dit, où on va? Et ils nous ont regardé un peu le globe en se disant, est-ce que... Et puis voilà, ils ont atterri en Australie, ils ont vu que c'était plus simple à ce moment-là d'aller en Australie. Il y avait des possibilités d'aller y travailler avec un visa court, et puis ils y sont restés.
Oui, après pour moi, c'est encore une fois, ça fait longtemps que j'entends ça. Ce que je vois, et c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est que ça reste assez minoritaire. Et puis surtout, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ici? Et qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ces phénomènes de xénophobie? Et qu'est-ce qu'on fait aussi pour améliorer, pour lutter contre ce qui peut aussi causer la xénophobie? Moi, j'ai énormément travaillé pour essayer d'organiser
l'association.
J'ai créé l'association musulmane pour l'islam de France avec un modèle de financement. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'argent, on fait rien. Reconnaître que il faut travailler sur la théologie. Il faut travailler aussi sur l'offre d'islam, notamment l'offre d'islam qu'il y a sur les réseaux sociaux.
Parce que la question, elle est raciale.
L'offre d'islam sur les réseaux sociaux, elle est quasi intégralement identitaire. C'est une religion sans croyance, en fait, sans spiritualité. C'est une religion de la consommation et c'est une religion de l'identité. Le fait que, vous parlez des élites, c'est les élites qui partent. Moi, ce qui me frappe, c'est que, prenez les élites des autres religions. Les élites des autres religions, ils ont une responsabilité communautaire, religieuse. Quand on a réussi, on est président de la synagogue. Moi, je viens d'une famille aussi protestante par ma mère. J'ai vu ma grand-mère s'engager dans des œuvres protestantes, catholiques, etc. Ce qui est très frappant chez les musulmans, c'est qu'il y a très peu d'engagement communautaire au sens de traditionnel du mot communauté. Et en fait, laisser l'organisation, laisser la religion à des entrepreneurs identitaires, ça marche pas. Et partir, ça marche pas. Alors je comprends les difficultés, mais pour moi, c'est pas une solution.
Oui, Julien Talpin.
Il y aurait beaucoup à dire. Très peu d'engagement communautaire chez les musulmans. Alors, je reviens un peu sur ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que le soupçon en permanence du communautarisme qui pèse sur la tête des musulmans et des musulmanes, je crois, rend cet engagement très coûteux et explique les difficultés effectivement à s'organiser collectivement. Par ailleurs, chez les personnes qu'on a rencontrées, qui pour une partie d'entre eux effectivement appartiennent aux élites économiques, sociales,
Vous dites même que c'est une assez grande partie d'entre eux. Enfin, ceux que vous avez interrogés, pour beaucoup d'entre eux, ils sont partis avec des diplômes assez élevés, d'après ce que j'ai cru comprendre en vous lisant.
Oui, 53% des gens qui ont répondu au questionnaire ont au moins un bac plus 5. Donc effectivement, par rapport à la sociologie des musulmans français, c'est effectivement une part tout à fait élitaire, même s'il y a aussi des profils plus diversifiés. Mais ce que je voulais souligner, c'est que ceux qui partent aussi ont une mauvaise conscience, d'une certaine façon. Ils ont bien le sentiment de laisser derrière eux une partie de leur famille, leurs amis, leur communauté. Mais comme je le disais précédemment, ils ont le sentiment qu'il n'y a plus grand-chose à faire, que la situation en France est même en train de se détériorer avec la montée en force de l'extrême droite, et donc ils préfèrent se sauver eux-mêmes devant cette incapacité à transformer la France. Et ce qui revient beaucoup également dans les entretiens, c'est la volonté de prémunir leurs propres enfants des expériences auxquelles ils ont été confrontés, et donc ils partent, mais ils partent à regret.
Oui. Alors vous posez cette question tout à l'heure, Kaoutar Archi, à savoir la question de la classe. Vous dites ce sont des gens qui ont les moyens qui peuvent partir, des moyens soit parce qu'ils ont des diplômes qui leur permettent de partir dans d'assez bonnes conditions, soit parce qu'ils ont les moyens financiers. Et vous vous posez aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas partir.
Oui, tout d'abord, je voulais simplement revenir sur ce qui a été dit, des termes comme théologie ont été évoqués. Je voudrais vraiment redire que la question, elle est d'ordre racial, en fait. Elle n'est pas d'ordre confessionnel, à tel point qu'il est possible d'être victime de discrimination, il est possible de s'engager dans une trajectoire et de quitter la France, comme cela a été documenté dans le livre en question, sans être musulman, sans avoir une quelconque forme de pratique religieuse, mais simplement parce que vous êtes identifié, vous êtes assigné à une dimension. Donc la question, elle n'est pas confessionnelle, elle est bien raciale. Et ce que vous disiez effectivement par rapport à cette question de la classe, oui, évidemment, quand je lis le livre de Julien Talpin et de ses auteurs, je trouve ça très intéressant, mais pour moi, il y a un livre dans un livre, en fait. C'est peut-être ce livre dans ce livre que moi, personnellement, j'ai essayé de lire aussi.
Et ce que vous avez voulu faire comme nous existons.
Exactement, c'est-à-dire les personnes qui ne peuvent pas partir, en fait. Les personnes qui peut-être aimeraient partir et qui n'ont pas la possibilité d'échapper au racisme parce qu'elles sont complètement prises, elles sont complètement engluées dans des formes de précarité, dans des formes de pauvreté, dans des formes de misère. Et nous savons très bien qu'au sein des classes populaires, les minorités raciales sont très surreprésentées. Donc il y a évidemment cette part, entre guillemets, on pourrait dire heureuse, individuelle, dans une espèce de perspective libérale aussi. Il me semble que ce sont aussi des personnes qui ont adopté une certaine vision du monde plutôt libérale, plutôt libéraliste, etc., etc. Il y en a d'autres qui n'ont pas fait ce choix, entre guillemets, donc qui n'ont pas accédé à ces types de professions et qui sont là, qui ne peuvent pas s'absenter du territoire et qui ne donc pas semer, entre guillemets, le racisme qui les poursuit. Et ces personnes-là, c'est important de penser à elles aussi, d'un point de vue antiraciste.
Hakim Karoui, dans le rapport que vous aviez rédigé pour l'Institut Montaigne que vous avez quitté et vous êtes maintenant à Terra Nova, autre think tank français, vous notiez, et c'est peut-être ce qui vous a fait partir de l'Institut Montaigne, cette idée du bienfait des communautés organisées comme amortisseur social. C'est ce que vous nous disiez d'une autre manière il y a un instant. Qu'est-ce qui manque justement? Et pourquoi, d'une certaine manière, on ne veut surtout pas, dans cette France républicaine, que les communautés soient organisées, en l'occurrence.
Alors,
en tout cas, cette communauté musulmane.
Ce travail, il a été fait avec les statistiques de l'INED et de l'INSEE, l'enquête Théo de
l'enquête trajectoire et origine, sur lequel tout le monde revient tout le temps, parce que effectivement, on a peu de moyens de mesurer quoi que ce soit, justement, de cette question, en absence des statistiques.
Ouais. Et puis l'enquête emploi de l'INSEE, qui demande le lieu de naissance des parents. Donc en fait, qui donne énormément d'infos sur les catégories socio-professionnelles. En fait, ce qu'on voyait, du coup, on a pu reconstituer la trajectoire sociale et professionnelle des enfants d'immigrés. Et ce qu'on voyait, c'est que, par exemple, les Portugais et les Algériens, qui sont venus exactement au même moment, avec les mêmes conditions socio-professionnelles des parents, ont une trajectoire des enfants complètement différente. Les enfants portugais font plutôt moins d'études supérieures que les enfants maghrébins, sont beaucoup mieux insérés socialement et professionnellement, et y a un niveau de mariage mixte, de métissage, qui est un peu plus élevé chez les Portugais, mais pas beaucoup plus. La grande différence, c'est qu'il y a une communauté portugaise, il n'y a pas de communauté maghrébine, il n'y a pas de communauté marocaine, algérienne ou tunisienne. Alors, on va se dire, c'est formidable, parce que l'ennemi de l'intégration, c'est le communautarisme. En fait, il n'y a pas de communauté maghrébine parce que je pense que les Maghrébins, quand ils arrivent en France, ils se sentent pas vraiment à l'étranger. Et donc, il n'y a pas la construction un peu automatique d'un système de protection. Et la communauté, c'est quoi? C'est des adultes qui s'occupent des enfants des autres. Le résultat, c'est que le processus d'intégration va trop vite. Le processus d'intégration, c'est un processus d'abord de déculturation. Donc, il y a une rupture à l'intérieur.
Je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec vous. Mais enfin,
moi, je pense. Bon. Le résultat, c'est que il n'y a pas de système de protection communautaire. Il y a cette fracture à l'intérieur des familles. Et il y a des enfants qui se retrouvent avec une petite question d'identité. Et il y a des entrepreneurs religieux. Ces entrepreneurs, ils disent, votre identité, c'est pas français, votre identité, c'est musulman. C'est pas une religion, c'est pas une religion avec de la croyance. C'est Olivier Roy a très bien expliqué ça. C'est pas une religion avec de la spiritualité, c'est une religion qui vous dit comment vous devez être. Et qui reconstitue un groupe. Le résultat, c'est que ça crée énormément de friction avec la société. Et par ailleurs, les élites, elles s'en occupent pas du tout. Et c'est une des grandes différences avec les autres communautés.
Julien Talpin.
Oui, je voudrais peut-être relativiser ce qui vient d'être dit, à la lumière de plusieurs travaux de sciences sociales, y compris ceux que j'ai pu conduire moi-même sur l'expérience des discriminations dans les quartiers populaires français. C'est-à-dire que le sentiment de ne pas être tout à fait à sa place en France, ce qu'on appelle le déni de francité, justement, dans l'enquête Trajectoire et Origine, ne découle pas d'abord du travail d'entrepreneur identitaire. C'est le fruit de la confrontation répétée à des discriminations, à de la stigmatisation, qui vous renvoie en dehors de la communauté des citoyens. Je crois que tous les travaux montrent très bien qu'il ne suffit pas que des gens débarquent en disant vous n'êtes pas français pour que ça percole d'une certaine façon. C'est beaucoup plus un processus beaucoup plus long et qui est lié à des expériences très concrètes que font les gens. Et
c'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit.
Non, mais en fait, disons que ces entrepreneurs identitaires, on a parfois tendance à leur donner beaucoup de rôles. Et moi, ce que j'ai saisi dans les entretiens que j'ai pu conduire, par exemple, sur mes terrains à Roubaix de longue date, c'est combien, au sein des familles, en fait, et y compris quand il y avait des expériences souvent difficiles, de discrimination, etc., les parents essayaient de transmettre à leurs enfants, quoi qu'on te dise, tu es français, en fait, et tu es français, et aussi descendant d'Algériens, et aussi musulman, et tu as une identité plurielle, et sois fier de ça. Tu fais aussi partie de la nation, tu es aussi français malgré tout ce qu'on te répète à longueur de journée. Et donc c'est un combat, mais je crois que la première source, d'une certaine façon, pour répondre à ces interrogations identitaires qui sont réelles, c'est pas uniquement d'aller taper sur des entrepreneurs identitaires parfois un peu fantasmés, mais d'être exemplaire d'un point de vue républicain en matière d'égalité et de lutte contre les discriminations. Et vous parliez de solutions tout à l'heure, je crois que c'est peut-être là aussi où le bât blesse, c'est que les politiques publiques en France pour lutter contre ces problèmes-là sont relativement modestes.
Qu'est-ce hiérarchie. Vous nous disiez tout à l'heure, n'oublions pas la race au détriment justement de cette question de la religion. Mais néanmoins, il y a dans ce livre des entretiens avec 28 entretiens avec des convertis I ou convertis IES, qui disent à partir du moment où un d'entre eux dit à partir du moment où je suis devenu musulman, je suis devenu un traître, car pour eux, donc j'imagine les autres Français, je ne suis pas devenu musulman, mais arabe, dit Jean, qui est un Toulousain installé à Toronto aujourd'hui. Donc ça n'est pas simplement, comme vous le disiez, la question du racisme, il y a aussi cette question liée à la religion.
Disons que la question ici de l'appartenance religieuse, elle est recodée en éléments, entre guillemets, essentialisants, réifiants, qui induisent, entre guillemets, que votre comportement serait totalement déterminé par les croyances qui sont les vôtres. Donc, en fait, on a affaire à un racisme sans race. C'est ainsi qu'il a été nommé, notamment par Étienne Balibar dans ses textes. Donc, la question raciale, elle reste fondamentale. Et l'islam n'est que le vecteur du racisme en question.
Hakim El Karoui, est-ce que vous pensez, après cette enquête, effectivement, que le débat qu'elle peut susciter, puisque cette enquête sort demain, mais il y a déjà eu quelques papiers dans la presse, peut justement, permettre un débat peut-être serein, puisque vous dites, je suis optimiste sur cette question-là?
Non, je suis pas très optimiste, mais disons que je ne me résigne pas, et surtout pas de faire des musulmans des victimes pour la fin des temps. Et c'est là où je suis pas d'accord quand on ne parle que des discriminations. Je pense qu'il y a aussi des responsabilités, et surtout je pense qu'il y a plein de choses à faire. Après, je pense que c'est très utile que ce travail sorte, qu'il suscite un débat, parce qu'en fait c'est une question qui est complètement invisible dans le débat public et dans le débat politique, donc merci d'avoir fait ce travail.
Vous attendez quoi, Julien Talpin, de la sortie de ce livre ?
Nous, ce qu'on attend, c'est au fond de contribuer à mettre à l'agenda ce phénomène qui jusqu'alors passait sous les radars. Et il nous semble qu'il y a effectivement un sujet qui doit interroger la société française. D'une certaine façon, les enquêtés, les personnes qu'on a rencontrées, elles aussi ont exprimé beaucoup d'attentes, au fond, que ces phénomènes et que tout cela soit visibilisé.
Avec donc, cette idée tout de même que c'est pas tout à fait réversible et que beaucoup de ceux qui sont partis et de celles qui sont parties ne reviendront pas, de toute façon.
Les gens ne veulent pas rentrer, mais en même temps continuent à se sentir français, continuent à avoir des liens pratiques, affectifs avec la France, et donc ils souhaiteraient quand même que les choses changent, sans pour autant être des victimes. Je crois que cette catégorie-là ne fait pas vraiment sens pour eux et elles. Et si on veut peut-être terminer sur une note
très
d'espoir,
brièvement.
Moi je crois beaucoup aussi aux capacités d'auto-organisation des communautés et des personnes elles-mêmes pour pas être dans le misérabilisme. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être changer de regard sur ces formes d'organisation collective et d'action collective des musulmans, des musulmanes et des minorités, et plutôt les encourager plutôt que les réprimer.
Merci à tous les trois. Je rappelle, Julien Talpin, que le livre que vous avez écrit avec Olivier Estève et Alice Picard s'intitule « La France, tu l'aimes mais tu la quittes », c'est au Seuil, enquête sur la diaspora française musulmane. Merci Kaoutar Archie d'être venu dialoguer autour de ce livre. Je rappelle que votre livre s'intitule « Comme nous existons » et est paru il y a 3 ans maintenant chez Actes Sud et raconte justement cette histoire de ceux qui peut-être ne peuvent pas partir de France. Et merci à vous, Hakim El Karoui, d'avoir été avec nous. Vous êtes président du Club 21e siècle. On peut lire votre Islam, une religion française, paru chez Gallimard, et vous allez continuer votre travail, j'imagine, autour de ces questions-là, dans le club Terra Nova. Il est 18h58 sur France Culture. Le temps du débat a été préparé ce soir par Roxane Poulin, Mathias Mégy, Fanny Richet, Anouk Sevno, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Cassandre Puel, avec à la technique Alex Exdang, et à la BBC, pour vous accueillir, Julien Talpin, Marc Stroman.